La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous nous sommes penchés sur la notion de sainteté et aussi de consécration. On avait lu un passage de l'Épître aux Éphésiens qui nous rappelle que Dieu nous a élus, qu'il nous a mis à part et qu'il a fait de nous des saints. On pourrait presque considérer que tout ça, c'est synonyme. Ce matin, en continuité avec cette idée-là, nous allons lire le début de la lettre aux Colossiens et tenter de comprendre que si nous sommes saints, et nous le sommes, c'est parce que Dieu nous a rachetés, qu'il nous a sauvés. Alors ça, c'est une notion théologique qui a déjà été bien développée ce matin, hein, merci Nathalie, qui s'appelle la rédemption. C'est l'objet de la fiche théologique numéro 5 de notre union d'église qu'on aurait dû étudier cet après-midi, qui s'intitule « Qui est sauvé, la portée de la rédemption ?». Alors même si on a nos assemblées générales, j'en dirai quand même quelques grandes lignes avant de démarrer cette assemblée, en guise de méditation tout à l'heure. En tout cas, c'est la suite logique de ce que nous avons parcouru depuis janvier. C'est un peu un modèle, hein, c'est création, chute, rédemption. Voilà, on a vu la création. Alors quand je dis on a vu, c'est pas du tout exhaustif, hein. Il faudra le revoir quand même. Mais voilà, on a parlé aussi de la chute et on arrive aujourd'hui à cette notion de rédemption. Pour faire court, on pourrait résumer en disant Dieu a tout créé et tout était bon. Ça, c'est la première chose. Puis le péché est entré dans le monde et a tout perverti. À partir de ce moment, Dieu a mis en place son plan de salut en vue de la réconciliation. Ce n'est pas tout à fait vrai théologiquement dans le sens où le plan était en place déjà, mais voilà, pour une compréhension, en tout cas à notre portée, on va dire ça comme ça. Je cite là une phrase de cette fiche théologique qui dit « Ce salut est infiniment riche et complexe, il peut revêtir plusieurs dimensions, personnelles ou créationnelles, temporelles ou éternelles, présentes ou à venir. Il importe de les comprendre de manière juste afin de nourrir notre foi et notre espérance, notre louange à Dieu et notre témoignage. » Voilà, alors c'est sur ces notions-là que je reviendrai tout à l'heure brièvement. En tout cas, je vous invite maintenant à la lecture de l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, les versets 12 à 23. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La rédemption, c'est donc le fait d'être racheté. Le rachat, c'est une notion qu'on a un peu perdu de vue, hein, dans notre société. En tout cas, ce matin, Je voudrais dire qu'en préparant ce message, je me suis rendu compte qu'on a l'habitude. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit nouveau ici, hein, et qui n'ait jamais entendu parler du salut. Sinon, nous avons l'habitude d'entendre que Dieu nous a sauvés. On a l'habitude d'entendre qu'il nous a rachetés en Christ. Et on a tellement l'habitude de l'entendre que ça ne nous fait plus rien. On est un peu blasé, imperméable, indifférent, ingrat peut-être. Nous ne mesurons plus à quel point cette nouvelle est bouleversante et prodigieuse. Alors c'est sur ça que je voudrais insister. Et du coup, je ne vais pas être complètement sur le texte. Le Dieu trois fois saint, créateur de toutes choses, tout puissant, a choisi, parce que c'est un choix, de ne pas laisser sa création soumise au chaos lié au péché. Dès le commencement, il élabore et il promet un plan de salut, son projet de rédemption, à la fois de l'homme, mais aussi de toute la création. Ça, on n'y pense pas toujours. Cette création attend encore la délivrance promise. Et ce projet, cette décision de Dieu, ce projet de rédemption, il ne le fait pas par obligation. Il ne le fait pas par ennui non plus. Encore moins par désespoir. Il le fait par amour. Dieu, seul saint, seul sage, seul bon, nous regarde. Nous qui nous détournons de lui, nous qui sommes pécheurs, perdus et parfois fiers de l'être. Nous qui revendiquons nos droits et notre liberté de n'appartenir qu'à nous-mêmes. Et combien nous sommes naïfs en cela. Dieu nous regarde donc. Nous ne valons rien. Nous n'avons rien à offrir et aucune justice à faire valoir. Et Dieu nous aime. Dieu nous regarde. Nous ne voulons pas de son regard. Nous ne voulons pas de sa présence. Nous ne voulons pas de son amour. Et pourtant, Dieu nous aime. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Ou alors sommes-nous tellement imbus de nous-mêmes que nous penserions presque que c'est normal, que nous le valons bien, comme dit une publicité pour les shampoings. Et la vérité, c'est que nous ne valons rien. Nous ne valions rien, en tout cas. Nous ne demandions rien. Et pourtant, Dieu va tout mettre en place pour nous sauver, nous racheter et nous réconcilier. Et certains, alors sûrement pas ici, hein, mais quand on en parle comme ça autour de nous, peut-être certains pourraient penser que ça ne lui coûte rien, lui qui est tout puissant finalement. Or cela lui coûte, et ça a bien été rappelé ce matin, un prix que nous n'aurions jamais osé imaginer, que jamais nous n'aurions pu payer. Cela lui coûte son fils bien-aimé. Et ce texte dit une expression qui ne se trouve que là, le fils de son amour. Un fils unique, précieux, obéissant et parfait, pour racheter un rebelle ingrat et dédaigneux tel que moi. Un fils qui meurt pour que moi je vive. Un fils qui souffre pour m'éviter cette souffrance. Un fils qui vit la colère de Dieu, qu'il a subie, pour que moi je sois réconciliée. Et je me demande si nous avons réalisé finalement dans quel état nous étions avant que Jésus nous délivre. Parce que quand ça fait des années qu'on est chrétien, on a tendance à pas tellement se souvenir d'où on est parti, et parfois à pas bien le savoir non plus, parce qu'on n'a pas tous été des gens en prison, comme on entend parfois des témoignages. J'étais un tueur et Dieu m'a trouvé. On est rarement dans ce cas. Et donc, on a du mal à réaliser finalement qu'est-ce qui est miraculeux là-dedans. Le monde fait tout pour nous troubler en plus quant à cet état premier. Et effectivement, quand on oublie d'où on part, d'où on vient, je crois que ça ne nous aide pas à réaliser le miracle incroyable qui s'est produit. On relativise et on devient un peu indifférent. Une idée fausse circule, selon laquelle on serait en tant qu'humain relativement neutre. Un peu comme la Suisse, hein. C'est-à-dire qu'il nous reviendrait de choisir entre recevoir le salut ou pas. Ce qui nous placerait, si nous ne le recevons pas, sous la condamnation. Or, mes amis, avant que Jésus tende la main vers nous et que nous la saisissions par grâce, par le moyen de la foi, nous étions déjà sous la condamnation. Est-ce que nous avons réalisé cela ? Nous sommes tous et toutes dans notre premier état des morts. Nous ne choisissons pas la mort en refusant la vie, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Nous sommes d'ores et déjà dans la mort sans le Christ. Ce n'est pas un choix. C'est un état de fait. Nous sommes sous la condamnation héritée du péché en Adam jusqu'à ce que nous saisissions le salut en Christ. En fait, il n'y a pas de troisième voie intermédiaire. Et si on veut bien lire, la Bible le dit, hein, je ne sais pas où on la trouve, cette troisième voie. On la trouve parce que ça nous rassure, mais elle n'existe pas. Et le texte de Colossiens le dit bien, si nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est parce que nous étions avant au pouvoir des ténèbres. Il ne dit pas dans un no man's land, là, en attendant de savoir vers où on allait vouloir se diriger. Or, le monde veut nous faire croire que nul n'est d'emblée dans les ténèbres, mais que nous sommes neutres. Et du coup, si nous ne faisons rien de mal, que nous ne tuons personne, hein, pour caricaturer, nous ne risquons rien. C'est le gros mensonge de Satan qui fait que beaucoup de gens ne ressentent pas la nécessité d'être sauvés, parce qu'ils ne sont pas perdus. Ils le croient, en tout cas. Voilà, ça n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Alors ça fait peut-être un peu mal à entendre, notamment pour tous les gens qu'on connaît et qui pour l'instant refusent le Seigneur. Mais je crois qu'il nous faut prendre conscience de cette vérité. Non seulement pour nous, pour réaliser le miracle qui s'est produit dans nos vies, mais aussi pour nous motiver dans notre témoignage. Nous étions morts, condamnés, perdus, esclaves, méchants, rebelles, et Dieu a voulu nous sauver par une décision arbitraire de son amour, une décision souveraine. Voilà pourquoi la rédemption est quelque chose d'incroyable, et voilà pourquoi jamais nous ne devrions être blasés d'entendre parler du salut, de la croix, de Jésus. On entend parfois des chrétiens dire « il y en a marre d'entendre la croix, là, tout le temps ». Ça m'interroge quand même. Le salut en Jésus, c'est tout simplement extraordinaire. Dieu nous aime et nous sauve. Alors voilà le sujet d'action de grâce qui déclenche ce magnifique chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens. Quel sujet d'action de grâce ? Posséder l'héritage des saints dans la lumière, après avoir été délivré de la puissance des ténèbres, appartenir au royaume du Fils bien-aimé de Dieu par la rédemption et le pardon qui se trouvent en lui. Nous qui avons cru, nous sommes rendus capables d'avoir part à la gloire céleste, capables d'avoir cette part dans la lumière de la présence de Dieu. Être rendu capable, c'est notre part déjà maintenant, bien que l'héritage dans sa plénitude soit futur. Est-ce que cette seule prise de conscience ne devrait pas changer notre vie ? Quelle espérance formidable ! Quelle libération de la culpabilité, de la nullité, de l'obligation de rendement. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et en fait, on n'a rien fait pour ça. Ce transport a été effectué à la croix. Nous avons été ramenés à Dieu par le sang du Christ, et par ce même sang versé, nos péchés ont été enlevés, ôtés, en sorte qu'ils sont tous pardonnés. Il importe de le redire parce qu'il n'est pas possible de se réjouir d'être ramené à Dieu en dehors du pardon de tous nos péchés, parce que c'est ce péché qui faisait obstacle entre Dieu et nous. Et en fait, ce sont les deux faces d'une même œuvre, la rédemption et la rémission des péchés. Nous sommes ramenés au Père parce que nos péchés sont pardonnés. Et ça satisfait à la fois la justice de Dieu et son amour. Voilà pourquoi Paul ne se lasse pas de parler du Christ, de sa personne, de son œuvre. Et nous ne devrions pas nous en lasser non plus. Je résume ce qu'il dit de Christ dans ce passage. Hein. Le Rédempteur est quant à Dieu son image, le premier-né. Quant à l'univers, toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Il a préexisté à toutes choses et elles subsistent par lui. Quant à l'Église, il en est le chef, l'ayant fondé par sa résurrection. Il est donc le premier en toutes choses et toute plénitude habite en lui. C'est énorme en fait, hein, pour écrire un livre rien que sur ça. Et même sûrement plusieurs livres. Cette idée d'image, en tout cas, ça nous rappelle qu'en voyant le Seigneur Jésus, j'ai vu Dieu. C'est quand même dingue. En connaissant ses voies, sa gloire, je connais Dieu. Dieu est avec moi dans ma nature humaine. Ayant trouvé le Seigneur, j'ai trouvé Dieu dans toute sa gloire. Dieu en amour, Dieu près de moi, dans ma nature, à l'intérieur de moi, dans mon cœur, par son esprit. Et j'ai trouvé mon repos en la présence de Dieu lui-même. Parce que rien ne peut troubler la présence de Dieu. Et si j'ai Dieu, Paul le rappelle aussi, hein, qui est-ce qui pourra être contre moi? Qui est-ce qui me jugera? Puisqu'il m'a déjà conduit dans la demeure de sa sainteté. Voilà le repos que l'âme trouve en Jésus, ainsi qu'une force puissante, certaine qu'elle possède en Jésus, Dieu, dans toute sa gloire. Lui qui a enlevé mes péchés. Voilà, en Jésus, nous avons la certitude de voir Dieu. La résurrection de Jésus a été le nouveau commencement pour Dieu. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, il le fait en rapport avec Christ ressuscité. C'est aussi ce qui nous permet de prendre conscience de la position qui est aujourd'hui la nôtre, en comparaison avec notre position d'avant, quand nous étions sans Dieu. Et là, ça rejoint le texte de la semaine dernière. Par Christ, Dieu a réconcilié avec lui-même toutes choses, la paix étant scellée par le sang de la croix. Et vous qui étiez étrangers, ennemis, il vous a aussi réconciliés par sa mort, pour vous rendre saints devant lui, si du moins vous persévérez dans la foi et dans l'espérance de l'Évangile. Dieu agit toujours selon une justice stricte. Par sa mort, le Seigneur Jésus a réglé tout ce qui tenait au péché dans l'ancienne création. Et ensuite, dans sa résurrection, Dieu a commencé la nouvelle création. Puisque la paix est établie, eh bien la réconciliation peut avoir lieu. Et j'insiste sur ça, c'est que le texte nous dit bien la paix a été faite. Personne n'a besoin de faire la paix avec Dieu. Alors que je crois souvent qu'on passe notre vie entière à essayer de faire la paix. Personne, d'ailleurs, ne peut faire la paix avec Dieu, hein, sans Christ. Christ est celui qui fait la paix. Il l'a faite non pas par sa vie d'une beauté et d'une perfection unique, même si c'est le cas, mais il l'a faite par sa mort. La paix ayant été faite, la réconciliation de toutes choses va venir. Et quand on dit « va venir », ça veut dire que tout n'est pas encore réconcilié. Nous qui croyons, il nous a maintenant réconciliés, c'est fait. Les choses créées ne le sont pas encore. Mais elles le seront, c'est ce que dit la parole. Alors voilà, ce que nous étions, ce que nous sommes devenus, eh bien nous étions perdus, nous sommes sauvés. Nous étions esclaves, nous sommes rachetés. Nous étions ennemis, nous sommes réconciliés. Nous étions morts, nous avons la vie éternelle. Nous étions condamnés, nous sommes héritiers du Père. Nous étions détestables, nous sommes aimés. C'est tout ça la rédemption. Et d'autres merveilles sont encore à venir. C'est un teaser un peu, hein, mais un jour nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous serons semblables à lui, purs et irréprochables. Un jour, toute la création sera délivrée du mal et de la mort et aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Un jour, nous prendrons le repas du Seigneur dans son royaume, avec lui, et tant d'autres choses encore. Combien merveilleuse est l'œuvre de réconciliation que Dieu a faite en son Fils, pour nous qui croyons. Combien cela devrait nous amener à plier le genou devant le Seigneur, à l'adorer, à le glorifier, à lui rendre grâce et à nous offrir à son service, à nous consacrer à lui, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse possible face à un tel amour. Que l'Esprit Saint renouvelle nos cœurs et notre intelligence. Et je vous propose pour terminer de relire ce texte, de le relire dans une attitude d'adoration et d'émerveillement devant l'œuvre que Dieu a faite. Parce que je crois que le texte parle de lui-même. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour ton amour immense, merci pour son œuvre qui nous sauve. Merci pour la réconciliation. Merci pour toutes tes promesses et tout ce qui est déjà là. Donne-nous, Seigneur, de saisir ces vérités profondément dans notre cœur et pas que dans notre tête. Donne-nous d'être joyeux, d'une joie que personne d'autre ne pourra comprendre, Seigneur. La joie du salut, la paix du salut. Oui, Père, donne-nous en ce temps de carême et à l'approche de Pâques, de mâcher ces vérités, de les intégrer et d'en vivre, de vivre comme tes enfants saints mis à part, de nouvelles créatures. Donne-nous d'être zélés pour parler de toi, pour annoncer cette œuvre qui sauve quiconque se tourne vers toi. Oui, Seigneur notre Dieu, renouvelle notre cœur pour toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.